regardez bien votre montre, votre radio-réveil, voire pire encore, je ne sais pas quoi, genre le portable, il est 20h. Et ça, vous le saviez. C'est le plaisir de nous retrouver sur Radio G pour Quasar on the Air, l'émission de Quasar, l'association qui est en même temps le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe plus d'Angers, situé 15 rue de Jérusalem, 49 100 Angers pour l'adresse très exacte si vous voulez nous envoyer une carte postale pendant les vacances. J'espère que vous êtes en pleine forme. La bonne nouvelle de cette semaine, vous le savez sans doute, c'est finalement l'adoption après une commission mixte paritaire du Sénat et du Parlement de la fameuse proposition de loi de Laurence Van Sonnebroek contre les prétendues thérapies de conversion. Nous allons en parler dans quelques instants. En tout cas, je vous sens vraiment, vraiment en pleine forme. Nous aussi, ça tombe bien. Alors, on jette tout de suite un coup d'œil sur l'agenda. L'agenda de Quasar, c'est très simple. Ce sont des dates à retenir. Vous allez voir, elles ne sont pas très très nombreuses, mais ça peut servir. Demain, samedi, non, après-demain samedi, parce que je me crois déjà vendredi, il faut attendre encore quelques heures, mais ça va venir. Donc le samedi 18 décembre, vous notez bien, à 15h, c'est Transat, le groupe de parole par et pour les personnes transgenres. C'est dans les locaux, ça se déroulera dans les locaux de Quasar, au 15 rue de la rue de Jérusalem, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 15h-17h, Transat par et pour les personnes transgenres, à genre et non binaires. Et les alliés et tous les parents, eh bien, ne rentrent pas, restent en dehors de la pièce où ils se réunissent. Toujours samedi 18, eh bien, ce sera le temps de la permanence, de 17h à 19h. Vous notez tout de suite qu'il n'y en aura pas le samedi 25 décembre, ni le 1er janvier, puisque le calendrier, cette année, est ainsi fait. Donc, nous reviendrons, eh bien, mystère, je vais vous le dire dans quelques instants, vous notez donc que ce sera le samedi 8 janvier, le retour de la permanence, à 17h jusqu'à 19h, idem les 15 et 22 janvier prochains. Vous notez déjà pour janvier, sur votre agenda, le vendredi 21 janvier, un tout nouveau rendez-vous qui remplace les conviviales. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, avec la pandémie de Covid, tout devient plus compliqué actuellement et pour les fêtes et après. Donc pour éviter toutes les contaminations, pour éviter d'avoir à manger ensemble, non pas que nous n'ayons pas le plaisir de le faire, mais que ça soit trop risqué, nous changeons de format. Et donc le vendredi 21 janvier, ça sera la première, à 19h30, on avance d'une heure, ce sera à Quasar Papote, où nous aurons un thème, un débat, vous venez, on échange, pour avoir un coup hein, quand même, mais tout de même avec plein de précautions. Et puis enfin, le samedi 29 janvier 2022, à 14h30, là on bouscule tout, c'est l'Assemblée Générale de Quasar, Assemblée Générale annuelle, évidemment, comme d'habitude. Ce Quasar on the Air, comme chaque semaine de notre intervention, plutôt chaque double semaine, puisque c'est une émission bimensuelle, vous le savez, accueille un invité. Et nous ne pouvions pas commencer ce 8e numéro de la saison sans rappeler, sans discuter avec l'un qui est une personne qui a été porteuse de cette proposition de loi et de la défendre. Je veux parler de Jean-Michel Dunant qui est au téléphone avec nous. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Michel, on va te situer. Tu nous avais déjà rejoint sur Quasar on the Air lors d'une émission où nous traitions de l'actualité, de l'approche LGBTI et des religions. Et puis finalement, tu nous avais expliqué que tu portais aussi cette grande bataille de lutter contre les thérapies de conversion, puisqu'à travers tes témoignages à Envoyé spécial Élise Lucet, et puis les différents reportages qui t'ont été consacrés, et surtout ce documentaire sur Arte, tu racontais comment toi, tu avais été victime, effectivement, de thérapies de conversion. Et puis cette semaine, après le vote de l'Assemblée générale, du Sénat, c'est pas la même chose, grave, pensez à nous. Le Sénat a donc validé le texte en le modifiant légèrement, ce qui nécessitait d'avoir une commission mixte paritaire entre Parlement, donc Assemblée Générale, le Parlement, l'Assemblée Nationale, je vais y arriver, et le Sénat, et ils se sont enfin mis d'accord. Ce qui veut dire que le texte est maintenant adopté, il n'y aura pas de nouvelle lecture, mais qu'on attend la promulgation de la loi. Ma première question, c'est comment est-ce que tu te sens à cette annonce ?
Eh bien, Stéphane, je me sens à la fois très joyeux et en même temps obligé. D'une certaine manière, cette loi oblige notre collectif Rien à guérir à demeurer dans une vigilance et à nous mettre au service aussi d'autres pays européens qui ont ce désir que la législation avance dans leur pays. Je pense en particulier à l'Espagne, où nous avons déjà été sollicités. Je pense par exemple à la télévision du Pays Basque espagnol qui m'a demandé une interview dernièrement. On sent que ça bouge aussi en Espagne, ça va bouger dans d'autres pays. Donc si le parcours qui a été le nôtre en France peut servir, bien évidemment, nous serons là pour aussi d'autres pays en Europe et ailleurs peut-être.
Et tu nous rappelles Rien à guérir, ce que c'est exactement ?
Oui, alors tu faisais allusion, Stéphane, au film documentaire d'Arte, Homothérapie, Conversion forcée, qui a été diffusé pour la première fois il y a un peu plus de 2 ans sur Arte, donc, et qui a été rediffusé au printemps dernier. Donc après la diffusion de ce film documentaire de Bernard Nicolas, nous avons eu des témoignages, des premiers témoignages de personnes, de rescapés de thérapie de conversion, venant essentiellement de différentes églises, catholiques, protestantes, évangéliques, etc. Et nous avons eu cette intuition avec Timothée de Roglaude, qui est un jeune journaliste qui a beaucoup contribué à faire connaître les thérapies de conversion par le livre qu'il a coécrit avec Jean-Louis Adenor, Dieu est amour, et qui ont beaucoup travaillé aussi sur le film documentaire. Nous avons cette idée de créer un collectif pour recueillir la parole des victimes, des rescapés, et aussi pour que ce collectif, dans un climat de discrétion et d'une certaine fraternité, pour ne pas dire une fraternité certaine, puisse permettre aussi à des personnes d'être portées dans ce qu'elles vivent, dans cette naissance à une nouvelle parole. Et voilà, et donc de là est né Rien à guérir, et nous avançons depuis maintenant bientôt 2 ans dans ce collectif dont le porte-parole est Benoît Berthe, que beaucoup doivent connaître parce que il a été lui aussi énormément médiatisé. Je lui rends un vif hommage ce soir parce que il s'est donné à fond, comme on dit, pour cette cause. Il a dépassé, j'allais dire, son histoire singulière pour vraiment servir cette cause très bellement et très justement.
Et on se souvient l'avoir accueilli sur cette même antenne dans Quasar en hier. Oui. Donc, on rappelle que la proposition de loi, maintenant, il ne faut plus qu'une seule chose, c'est qu'elle soit promulguée, et là, il faut un certain délai. Et après, la question de l'application, est-ce que vous vous êtes posé cette question d'accompagner aussi à la compréhension de la loi et à l'application à travers vos témoignages, parce que toute la problématique sera comment les juges et les forces de police déjà à la prise de plainte pourront s'emparer de ce texte, le connaître, et puis les parquets et les juges pouvoir appliquer le texte. Est-ce que ça a été un de vos soucis ? Est-ce que des juristes vous ont rejoint pour cette problématique ?
Alors, moi, je ne sais pas dans mon domaine de compétence, tout poser la question à Benoît pour le coup, mais quand je disais que nous étions dans une vigilance aussi, je crois que elle se situe là aussi, bien sûr, pour que cette loi soit appliquée. Après, tout ce qui est du domaine de la loi, du texte de loi lui-même et aussi de tout le volet juridique, c'est vrai que j'ai beaucoup répondu aux médias, et je réponds encore ce soir, que c'est pas moi dans mon domaine de compétence, et je veux vraiment être honnête, je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, je ne dis pas grand-chose.
On aura l'occasion de lui poser la question plus tard.
Voilà, je pense que c'est bien, et il sera il sera très heureux d'y répondre, je pense, parce que lui, pour le coup, il est très, très au fait de tout cela. Il emploie les bons mots, ce qui n'est pas mon cas.
Une satisfaction, c'est que les personnes transgenres, agenres et non-binaires n'ont pas été exclues du cadre de cette loi, alors que ça a été une tentative, notamment de plusieurs sénateurs et d'une sénatrice, Les Républicains. On note néanmoins que le terme thérapie de conversion n'a pas été retenu pour les personnes intersexes, alors qu'effectivement c'est une problématique, puisque souvent les bébés à la naissance subissent des mutilations, en tout cas une thérapie, je veux dire, opératoire de conversion, on est bien d'accord.
Oui, oui, oui. Alors, pour ce qui est des personnes transgenres, c'est vrai que les auditions que nous avons vécues avec les sénateurs, et en particulier avec la sénatrice, ont été très écoutées. On sentait que toute cette question des personnes transgenres dans cette loi était un souci de cette sénatrice, et on a été vraiment écoutés. Après, je suis effectivement très douloureux par rapport aux personnes intersexes, aux bébés intersexes, mais très douloureux.
Ouais. Parce qu'effectivement, comme ils sont encore moins nombreux, c'est-à-dire dans la minorité de la minorité, la difficulté, c'est de faire entendre cette réalité. Et c'est vrai que nos associations sont encore pauvres de cette revendication, et qu'il faut vraiment que nous fassions un effort pour être à leur côté. J'ai une question vraiment très personnelle. Tu exprimes ta joie, tu exprimes la gratitude, tu te tiens encore disponible pour des tas d'interventions, voire les pays européens et autres qui vous solliciteraient. Est-ce que personnellement, il n'y a pas quand même un moment où il y a une chute de tension, une chute d'intensité, non pas de dépression, mais dans l'idée que quelque chose est gagné, et comme toutes les batailles gagnées, il y a un moment besoin de se poser, personnellement, je veux dire.
Oui et non, je dirais. Je vais pas faire une réponse de jésuite entre guillemets, mais oui et non, c'est-à-dire que effectivement, bon, je ne veux pas en faire l'unique combat de mon engagement. Bien évidemment, je suis membre de la communion Béthanie, et c'est là qu'est mon terreau, c'est là qu'est mon engagement aussi de fond, avec tout ce que cela comporte aussi en termes d'exercice et d'engagement. Mais ensuite, je dirais non, parce que c'est une dynamique pour le respect des personnes, et je ne sens pas cet arrêt là. Je sens plutôt un élan qui se poursuit, et qui personnellement, alors puisque la question est très personnelle, m'aide beaucoup aussi dans ma propre reconstruction. J'ai repris un sérieux et véritable chemin thérapeutique avec un médecin psychiatre, parce que je suis vraiment sorti, je crois, je peux le dire, du déni traumatique et d'un certain conflit de loyauté vis-à-vis de l'institution ecclésiale. Et donc je suis merveilleusement et très bien, très professionnellement accompagné. Et je pense que le fait d'être dans ce combat qui me décentre, qui me pousse vers ce travail pour le respect des autres, m'aide aussi dans ma propre reconstruction. Donc c'est un élan. À la fois, je sais pas l'unique élan, mais c'est un élan, quoi. C'est voilà. Donc je dirais oui et non, quoi. Mais je n'ai pas envie d'arrêter ce chemin parce qu'il y a des êtres aujourd'hui qui souffrent, et puis je veux en faire vraiment aussi toujours une veille de prévention pour les jeunes, parce que la loi qui vient d'être votée, ou qui va l'être, est une loi qui a été essentiellement portée, enfin en tout cas, la grande dernière avancée, elle a été portée par des jeunes, et ça c'est merveilleux. Je l'ai beaucoup dit dans les médias ces derniers jours, et je le redis ce soir ici. Ouais.
Alors, un exploit, une minute qui nous reste. Par rapport à ce texte, comment est-ce qu'il va être possible de le faire vivre au sein de l'Église catholique, compte tenu de la situation et de la mentalité actuelle ?
Eh bien, justement, je crois que la fin de ta question est très pertinente. La mentalité actuelle est aussi en contradiction profonde avec l'actualité. Enfin, en tout cas, une partie de la mentalité actuelle, je dis bien une partie, je pèse mes mots, qui n'est pas aussi majoritaire que ça n'a l'air. n'est pas en accord avec la situation actuelle de l'Église. Je pense dans l'Église catholique. Et je pense que la situation actuelle dans l'Église catholique, c'est une situation qui nous oblige à ouvrir des grands chantiers, des grands débats de fond. Et si on veut être à la hauteur de ce qui est en train de se passer, en particulier avec la remise du rapport de la CIAS, vous me direz ça n'a rien à voir. Et pourtant, tout est lié parce qu'il s'agit là aussi d'une libération profonde de la parole. Alors, c'est un immense chantier. Et je pense que on s'inscrit vraiment dans ce travail ensemble pour reposer les grandes questions de fond qui sont des questions anthropologiques et donc aussi de liberté intérieure, de liberté spirituelle. Et moi, je pense que, enfin, j'ai peut-être la naïveté de croire que on arrive à un moment privilégié pour cela. Après, ça n'empêchera pas qu'il va falloir vraiment mouiller sa chemise et y aller. C'est un immense chantier, mais pour cela, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie profonde et parce que je sais que je ne suis pas seul aussi. Oui. Et ceux qui freinent, bah oui, ils sont là, ils font du bruit, mais ils sont pas seulement dans l'Église catholique, ils sont ailleurs aussi. Mais on n'arrête pas l'élan de vie et on n'arrête pas des gens qui sont passés comme moi tout près de la mort dans leur élan de vie. Et moi, ce courant de vie triomphe et triomphera encore en moi.
Bah, ce sera la conclusion de notre échange. Merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Jean-Michel Dunant, en direct de Montpellier, qui nous parlait du collectif Rien à guérir et de cet heureux dénouement du vote donc, de la loi contre les thérapies de conversion. Bonne soirée Jean-Michel, à bientôt.
Merci Stéphane, bonne fête de fin d'année, au revoir.
Au revoir. Et pour continuer, eh bien figurez-vous, musique. Elle s'appelle Léonie Pernet. Et figurez-vous qu'il pleut des hommes. Profitez. Quasar Anzière, Radio G, 101.5.
J'archive par couleur mes regrets. Dans l'eau des rêves, j'ai cueilli la promesse de l'aube inaccomplie. Les ombres sont en nombre, infécondes, elles se répondent. Les ombres sont en surnombre, infécondes, elles me répondent. L'eau des rêves monte, le noir et blanc s'affrontent, prélude à la peine, les promesses de l'aube s'effondrent. Les ombres sont en nombre, infécondes, elles se répondent. Les ombres sont en surnombre.
l'artiste lesbienne Léonie Pernet avec ce titre « Il pleut des hommes ». Quasar on the Air poursuit sa découverte des thématiques lesbiennes, gays, bi, trans, intersexe plus, tous les 15 jours dans Quasar on the Air sur Radio G 101.5. Nouvel invité, c'est un invité quasarien. Cette fois-ci, on va faire maison, mais comme c'est compliqué d'être dans les studios avec nous en direct vu l'éloignement, nous allons accueillir Charlie au téléphone. Bonjour Charlie.
Bonsoir.
Alors toi Charlie, pour expliquer qui tu es à ceux qui nous rejoignent peut-être maintenant, tu es une des personnes qui anime la Team Trans. Alors est-ce que tu peux nous dire, en gros avec tes mots à toi, ce qu'est la Team Trans à Quasar ?
Tout à fait. La Team Trans à Quasar, donc c'est trois grosses actions principales. On va avoir d'abord deux groupes de parole. Un premier qui s'appelle Transat, qui est consacré aux personnes non-binaires, transgenres, intersexes et en questionnement, qui a lieu une fois par mois le samedi après-midi de 15h à 17h. Et un deuxième groupe qui se nomme Transparent, qui lui est consacré du coup aux parents des personnes transgenres, non-binaires et en questionnement, qui lui a lieu toujours une fois par mois le jeudi soir. Et notre troisième grosse action, ça va être de l'accueil individuel en rendez-vous pour organiser des suivis et répondre aux questionnements des diverses personnes accueillies. On a un autre projet en construction qui
serait... On peut en parler,
ouais, voilà, qui serait du coup un groupe de parole pour les personnes mineures, enfin groupe de parole plutôt rencontre, voilà, pour les mineurs.
Un temps festif, on va dire, parce que eux n'ont pas tant besoin d'avoir un groupe de parole que de se rencontrer et de faire connaissance et de se libérer un peu du poids qu'ils ont sur les épaules. Parce qu'on rappelle, hein, sous ton contrôle, que maintenant c'est à peu près 80% des demandes de rendez-vous que nous recevons, c'est-à-dire ce sont soit des mineurs tout seuls, soit leurs parents et les mineurs, garçons ou filles trans, qui nous demandent de l'aide parce qu'ils sont complètement perdus. Toi, tu es arrivé, rappelle-nous quand exactement à Quasar ?
Alors moi, je suis arrivée à Quasar, ça va faire 2 ans maintenant. J'ai connu l'association lors du forum des associations à Angers. Moi, j'étais en tant que professionnelle et c'est là que j'ai découvert l'association Quasar. J'ai commencé d'abord dans le pôle éducation-formation. Qui est du coup responsable des interventions en milieu scolaire. Et puis j'ai migré il y a quelques mois au sein de la Team Trans.
Voilà, et tu te sens bien ?
Oui, oui, oui. On se sent bien souvent à Quasar.
Bon, c'est parfait. Alors, comment est-ce que toi tu vis en tant que personne ? Alors, comment est-ce que tu te définis d'abord ? Ça serait peut-être la bonne question. Quel pronom tu utilises ? Quelles sont nos coutumes quand on accueille les personnes trans à genre et non-binaires ?
Alors, donc nos coutumes, bah, ça va être comme je vais faire là. La première chose, c'est de se présenter. Donc moi, j'utilise les pronoms masculins et je suis non-binaire.
Alors, donc, petite là, explication. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être non-binaire ?
Alors, pour être non-binaire, en tout cas dans mon cas, c'est-à-dire que je ne m'identifie pas à un genre en particulier, ni complètement homme, ni complètement femme. Voilà, on va avoir tendance à jongler entre les deux, soit ne pas se définir complètement. Voilà, ça change tout le temps.
et ça, tu parles bien de ton ressenti. Comment est-ce que tu fais au quotidien par rapport aux situations sociales dans ton travail, l'histoire d'aller chercher un courrier commandé à la poste, tes relations avec les gens à l'extérieur, soit famille, amis ou les personnes que tu ne connaîtrais pas. Comment tu te situes et comment tu procèdes ?
Alors, c'est pas toujours simple. Moi, j'ai décidé d'entamer ce qu'on appellerait une transition sociale. Donc, j'ai changé de prénom dans mon cercle de proches. J'utilise mes pronoms masculins pareil avec mes proches. Donc, pour ce qui est de la question du courrier en recommandé, la plupart de mes courriers que j'ai récupérés, je l'ai fait au nom de Charlie. Jusque-là, ça m'a jamais posé de problème. Pour ce qui est du travail, là c'est toujours un peu plus délicat. Je suis toujours sous mon dead name au sein de mon entreprise.
Alors dead name, on explique dead name.
Dead name, du coup, c'est le prénom de naissance.
D'accord. Qui a été inscrit à la naissance de la personne sur son état civil.
Voilà, exactement.
Et qui reste moi, le prénom officiel.
Qui reste le prénom officiel tant qu'il n'y a pas eu de changement à l'état civil. Donc moi c'est mon cas et voilà, donc je suis sous ce dead name employé par mon entreprise et ce qui ne m'empêche pas au quotidien avec mes collègues proches d'utiliser mon prénom d'usage, mais c'est vrai que parfois ça peut poser problème vis-à-vis de la clientèle extérieure ou en interne potentiellement parfois d'incompréhension vis-à-vis de la direction.
Alors, tu touches là un point excessivement important à expliquer à tout à chacun et à tout à chacune, c'est-à-dire que tant dans le milieu professionnel que pour les plus jeunes dans le cadre des collèges, lycées, universités, on peut, tout en gardant son identité d'état civil, demander à être nommé par un prénom d'usage.
Tout à fait.
Et donc, pour tout ce qui est du domaine de l'éducation nationale, donc là on parle des établissements tout style, notamment entre autres collèges et lycées, l'identité de la personne va toujours être conservée dans l'inscription administrative dans l'établissement, mais les listes d'appel, les listes internes et au quotidien, la personne pourra être appelée par son prénom d'usage.
C'est ça. En fait, ce sont tous les documents officiels qu'on ne peut pas demander à changer. Si je prends mon exemple, moi par exemple, je ne peux pas changer mon contrat de travail ni mes fiches de paie. En revanche, ce que je pourrais demander à faire, c'est que mon prénom d'usage soit mentionné sur tous ces documents-là. Ça, c'est pas impossible.
Voilà, puisque ça n'annule pas l'identité réelle. On apporte juste une précision de l'état actuel de la personne, ce qui n'est pas la même chose. Ça ne rompt pas la règle légale, enfin la loi qui consiste à dire qu'on est obligé d'appeler une personne par ce qui est exactement inscrit à son état civil. Ce qui d'ailleurs, par contre-coup, fait que quand la personne, elle, décide de faire les démarches, par exemple pour changer son prénom, eh bien, pour le coup, une fois que c'est reconnu à l'état civil de la mairie, puisque c'est à la mairie que ça se passe, eh bien, tout le monde a obligation de procéder à la modification.
De procéder au changement.
Voilà,
tout à fait.
C'est ça. Hein, et ça, c'est vraiment ça qui est important. Et puis après, bah, pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus en avant dans la transition, ça peut aller jusqu'au changement d'état civil complet, c'est-à-dire, pour être très précis, la mention du sexe à l'état civil. Voilà. Alors, dans ce que toi tu vis, dans les rendez-vous, comment est-ce que tu le ressens à titre personnel ? C'est-à-dire, quand on est soi-même dans un parcours, est-ce que c'est entamé il y a encore peu de temps ? Est-ce que c'est compliqué à ce point-là ? Est-ce qu'on se projette ? Ou est-ce que tu fais toi-même l'effort de sortir de la projection personnelle ? Comment est-ce que dans ta tête ça se passe ?
Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Je dirais que dans la plupart des cas, j'arrive à ne pas me projeter dans le parcours des personnes qu'on reçoit. Hein. Après, chaque parcours est différent, donc c'est vrai que quand on tombe sur une personne qui a à peu près le même parcours que nous, c'est difficile de pas prendre ça à cœur. Mais c'est vrai que entre autres par mon travail, j'arrive à bien me détacher de tout ça.
Et alors, pour aller plus loin sur cette thématique-là, est-ce que tu dirais qu'à des moments, tu t'es retrouvé vraiment en difficulté lors d'un rendez-vous individuel ou d'un groupe de parole, et est-ce que le groupe de parole, finalement, t'a aidé, toi ?
Alors, je dirais que ça se ressent surtout sur les groupes de parole des parents. C'est vraiment pas facile de faire face aux peurs, aux interrogations des parents. Pour le coup, moi, en plus, ça fait beaucoup écho à mon histoire personnelle. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que ça a changé complètement ma façon de voir les choses du point de vue des parents, en fait. Hein. C'est vrai que finalement, quand quand leur enfant leur fait leur coming out. Hein, c'est quelque chose qui est longuement réfléchi. Et voilà, nous on est là avec nos besoins à demander tout de suite à ce qu'il y ait des adaptations. Mais eux, ils n'ont pas eu tout ce temps comme nous pour réfléchir à tout ça. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à vouloir que leur demander trop vite en fait de changer avec nous. Et c'est pas toujours simple pour eux. Eux aussi, ils font une transition. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. C'est que il faut aussi que nous, de notre côté, on sache être très ouvert et très patient aussi.
Là, tu as dit une chose essentielle, hein, c'est que les parents, de toute façon, n'ont pas le choix. Ils font eux aussi une transition.
Tout à fait.
Alors, c'est pas la même, évidemment, hein, on est bien d'accord. C'est ce qu'avait dit une maman d'une jeune fille transgenre en disant « J'ai pris conscience que je faisais moi aussi ma transition, mais que pour elle, c'était très facile, alors que pour moi, ça l'est beaucoup plus. »
C'est ça.
Et dans est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche plus? Alors, tu nous as parlé des parents. Chez les mineurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche plus de leur détresse, ou finalement, tu te reconnais avec d'autres cas, même de personnes majeures?
Pour le coup, oui, je me reconnais beaucoup dans leur parcours. Ce qui va me toucher beaucoup chez les mineurs, en tout cas, que nous, on a eu la chance de rencontrer à Quasar, c'est que beaucoup sont bien accompagnés par leurs parents.
Oui.
Ce qui m'a beaucoup touché aussi dans les différents parcours, hein, c'est vraiment ce manque de renseignements qu'ont les personnes, souvent, quand elles viennent nous voir, et qui, bien souvent, leur fait défaut, en fait, tout simplement.
Pire, ils sont mal renseignés, et on leur dit, dès la première consulte médecin de famille, allez voir un psychiatre. Or, on rappelle qu'il n'y a plus aucune obligation d'aller voir un psychiatre et en plus de donner une attestation de psychiatre, et que nous à Quasar on fait bien la différence entre être contre le validisme psychiatrique, c'est-à-dire être obligé de fournir une attestation, là je parle principalement pour les majeurs, mais ça peut arriver pour les mineurs pour entrer dans,
pour les mineurs aussi.
Voilà, dans l'hormonothérapie, et que de toute façon elle n'est pas avant 16 ans, mais que nous ne sommes pas contre le fait que n'importe qui aille consulter un psychologue, un psychiatre, mais pas avec un aboutissement de validation, quoi. C'est ça.
C'est ça.
Or, aujourd'hui, sur le Maine-et-Loire, eh bien, les portes se ferment les unes après les autres parce que il y a des lobbies très puissants qui menacent et qui tentent de tout bloquer. Hein, on est bien d'accord. Hein.
C'est ça.
Et que ça, c'est il faut ça. Absolument le dénoncer. Le petit mot de la
Exactement.
Fin, le petit mot de la fin, c'est demain. Quel état d'esprit pour Transat?
Demain, alors samedi.
Non, samedi, pardon. Je suis absolument me croire.
On est jeudi soir, s'il te
Je suis désolé.
Le mot d'ordre pour le Transat. Alors moi je dirais ce qu'on pourrait soulever un point essentiel, c'est que nous à Quasar on a en besoin de bénévoles.
Voilà, c'est ça.
sur la Team Trans, et c'est aussi notre rôle en tant que personne transgenre ou non binaire ou en questionnement. C'est aussi à un moment donné, si on le désire et qu'on a la possibilité, c'est de s'investir pour changer les choses, et ça c'est vraiment le mot d'ordre maintenant pour notre futur Transat.
Voilà, et finalement on commence petit et puis on prend du galon et on se forme et on s'habitue.
Exactement,
c'est exactement ça. Merci beaucoup Charlie d'avoir été avec nous ce soir. Et puis bon Transat, après-demain samedi. Ciao. Merci,
au revoir.
Et la bise à Alix. Ciao. Vous l'avez reconnue, la Queen Diana Ross. Quasar on the air, no one gets the prize. Alors là, un conseil, hein, si vous cherchez vraiment à animer vos prochains réveillons, Noël et Nouvel An, la Diana Ross, c'est vraiment le top. No one gets the prize. Petite parenthèse pour vous dire que dans 15 jours, nous nous retrouverons ici même. Nous ne serons pas le 31, mais le 30, puisque le 31, ce sera Bruno qui vous tiendra compagnie avec plein de surprises sur Radio G. Et le 30, nous, on se retrouve alors pour une émission, pour le coup, qui sera un tout petit peu moins sérieuse. On essaiera d'avoir plein d'invités, parler de l'année qui s'achève, les désirs de 2022, et ce sera beaucoup plus musical. Et on vous attend dans 15 jours. Enfin, ne partez pas tout de suite, hein. Nous sommes encore là, rassurez-vous. Nous avons encore quelques 22 minutes d'émission et nous allons les passer en agréable compagnie puisque nouvelle invitée sur Quasar On The Air, nous accueillons Erika Werner qui est la secrétaire du Gyrophare. Bonsoir Erika.
Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation.
Mais c'est plaisir. Alors on va dire les choses hein, parce qu'on va rien cacher. On se connaît puisqu'on s'est rencontrés dans une formation du RAVAD et que nos associations participent effectivement aux différentes formations et invites proposées par le RAVAD, qui est le fameux réseau d'assistance aux victimes d'agression et de discrimination. Alors Erika, le Gyrophare, on va dire que c'est le centre LGBTI de Bordeaux, c'est bien ça?
Oui, c'est le centre LGBTQI+, Bordeaux-Aquitaine. Le centre a été créé en 2007. On est basé à Bordeaux et en gros, c'est un centre qui fait de l'accueil, de l'accompagnement, du soutien psychologique, de l'accompagnement aussi de demandes d'asile, des activités de convivialité, la lutte contre l'isolement. C'est aussi un regroupement de plusieurs associations, plus d'une vingtaine, qui travaillent sur le territoire de l'Aquitaine. Et accessoirement, on organise la Pride de Bordeaux depuis près de...
Accessoirement, c'est pas le mot. C'est jamais de l'accessoire, cette affaire. Hein.
Voilà. Voilà.
Alors, toi, tu as un poste de salarié et tu es secrétaire. Donc, quand on est secrétaire d'une association comme le Gyrophare, qu'est-ce qu'on a comme grande mission à accomplir ?
Alors, je ne suis pas salariée, moi je suis juste au sein du conseil d'administration. D'accord. Nous avons deux salariés formidables à notre équipe, un directeur et une chargée de mission. Tristan Poupard qui n'a pas pu être là parce que nous avons une rencontre ce soir. Moi je suis secrétaire au sein du Gyrophare et en gros pour les conseils d'administration, le poste de secrétaire c'est la personne qui collecte les données et s'assure qu'elles sont redistribuées ou bien archivées et aussi qui veille aux formalités juridiques qui accompagnent l'organisation de l'Assemblée Générale.
Alors, si on t'a invité ce soir, Erika, c'est aussi pour nous parler sur la thématique du suivi juridique, de la protection des droits, de l'accès aux droits des personnes LGBTI+, par rapport à un programme qui a été mis en place en Aquitaine et précisément d'abord en base avec la mairie de Bordeaux. Et ce programme s'appelle Elucide, sans E à la fin, E-L-U-C-I-D. Donc c'est forcément un anagramme. L'anagramme de quoi ? Et quelle a été l'idée derrière ? Quelle est la genèse de cette affaire ?
Oui, alors, en fait, ce qui a commencé, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été menée par l'Observatoire bordelais de l'égalité sur les discriminations en 2014 et 2015. Et suite aux résultats qui ont été révélés, 50,5% des répondants ont été soit témoins ou victimes de discrimination. Et seuls 3,5% des victimes ont porté plainte. Alors, la mairie de Bordeaux avait décidé en 2019 de créer un réseau d'orientation et d'information pour les personnes victimes de discrimination ou de violences discriminatoires intitulé « Ensemble, luttons contre les inégalités et les discriminations », donc Elucide. Alors, ce réseau, il est déployé en partenariat avec le CCAS, le barreau de Bordeaux, la direction départementale de la police nationale, le défenseur des droits, l'école nationale de la magistrature, le conseil départemental d'accès aux droits et les associations concernées, dont le Gyrophare et les associations membres du Gyrophare, pour tout ce qui concerne les discriminations et les violences anti-LGBTQI+.
Donc, on voit bien d'où ça vient, de ce constat. D'abord, l'étape constat, et puis ensuite, ensuite l'idée de répondre à ce constat par une mise en place de quelque chose et des partenaires. Alors, concrètement, il se passe quoi et ça se passe comment quand une personne victime de discrimination, victime d'agression, d'injure ou de diffamation ou d'incitation à la haine, quel que soit le support ou l'endroit, qui vient vous voir, elle entre par votre porte et il va se passer quoi concrètement ?
Oui, alors donc tous les partenaires que j'ai cités tout à l'heure ont des référents pour certains types de discrimination. Donc dans le cas des discriminations de violence anti-LGBTQI, le Girophare peut accompagner cette personne dans les démarches administratives pour porter sa plainte, pour l'accompagnement de suivi médical, pour s'il y a besoin d'aller à la police par exemple, faire une déclaration ou si faire la plainte par internet, voilà. Et le Girophare peut se porter partie civile. Quand je parle du Girophare, il faut entendre bien sûr toutes les associations membres du Girophare. Selon le type de discrimination, ça se peut que la personne soit référée par une association membre.
D'accord.
Et donc, pour chaque procédure, la mairie ou le Girophare peuvent se porter partie civile. Dans tous les cas, il y a des avocats qui sont formés sur ces questions-là. Donc, ils peuvent reprendre le dossier. La mairie peut offre même de couvrir les frais pour la première consultation. Dans le cas du Girophare, bien sûr, comme on se porte partie civile, on accompagne les personnes aussi financièrement dans ce processus-là. Et donc, si la victime décide d'entamer une procédure judiciaire, nous l'accompagnons jusqu'au bout. Et à chaque étape, il y a des référents qui sont formés sur les questions de violence anti-LGBTQI qui recevront la demande ou qui traiteront cette demande-là à tous les niveaux.
Je fais une parenthèse, on est bien d'accord qu'Elucide, comme tu l'expliquais, ne concerne pas que les thématiques LGBTQI+, mais bien d'autres thématiques de discrimination, comme l'antisémitisme, comme le racisme, et d'autres, on est bien d'accord.
Oui, voilà. Oui, exactement, c'est les discriminations telles qu'elles sont définies juridiquement. Je crois qu'il y en a 20 qui sont reconnues. Donc, Elucide...
On dit 21 en général, mais j'ai jamais réussi 21, à trouver la 21e.
C'est pour ça que je dis 20. On dira 21 parce que c'est quand même cité 21.
Voilà, c'est ça.
Mais disons que ces discriminations, enfin, Elucide, le dispositif Elucide rassemble autant les services institutionnels, les services juridiques, la police, les services médicaux, etc. Tous les services qui sont concernés par une procédure qui implique une victime, mais elle concerne aussi toutes les associations qui font des luttes contre toutes les discriminations telles qu'elles sont définies par la loi.
Alors, on s'empresse de dire, puisque là on plaisantait entre nous, des 21 ou 20 critères lus dans l'article, on doit le citer, c'est l'article 225-1 du code pénal qui dresse la liste de tous les critères qui sont des discriminations et qui sont les critères juridiques avec une appellation bien particulière. On rappelle que le terme homophobie n'existe dans aucun code, qu'il soit le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale. Homophobie, lesbophobie n'existe pas, d'ailleurs pas plus que le racisme et l'antisémitisme, c'est toujours à raison de, et en ce qui concerne l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, c'est à raison de l'orientation sexuelle de la victime, réelle ou supposée, puisque pour certains textes, effectivement, c'est extrêmement important pour l'application. On referme la parenthèse là maintenant, on revient à Elucide. Donc une fois que la personne a sonné à votre porte, une fois qu'elle est informée, une fois qu'elle décide de poursuivre, est-ce que vous avez constaté que le fait d'être entré dans ce système avec des référents et d'intégrer le parquet, est-ce que vous avez vraiment l'impression que le parquet est beaucoup plus à l'écoute, peut-être mieux formé pour répondre à ce type de plainte, sans favoritisme d'ailleurs, hein, c'est pas ce qu'on demande, mais est-ce que vous pensez que ça a eu un effet bénéfique ? Est-ce que vous l'avez constaté ?
Ce serait notre directeur général qui serait plus à même de répondre, mais personnellement, je pense que oui. Surtout parce que nous avons aussi ce qu'on appelle la commission LGBT+ de Bordeaux, qui est une commission qui réunit les institutions et les associations qui travaillent sur les thématiques LGBTQI+, dans Bordeaux, pour revoir les difficultés qu'on a peut-être à ce niveau-là, ou et d'autres questions, traiter des questions justement de la ville, comment la ville peut améliorer ou élaborer des plans de lutte selon les priorités du moment. Donc le fait d'avoir un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes permet de conforter l'accompagnement et de professionnaliser l'accompagnement des personnes victimes de discrimination anti-LGBTQI+. Et oui, de ce fait, des quelques personnes que l'on a pu accompagner, elles se sont senties assez confiantes pour entamer les démarches ou assez confiantes pour être informées de leurs droits et refusées en étant quand même éclairées sur les possibilités.
Alors, abordons un point politique, puisque c'est tout de même une affaire politique. Comment est-ce qu'une ville comme Bordeaux, qui est excessivement, qui avait l'image d'Alain Juppé et puis de son successeur. Bon, certes, la mairie a une nouvelle couleur là depuis les dernières élections municipales, mais comment, puisque tu nous dis que ça fait déjà de nombreuses années que tout cela est engagé, donc ce n'est pas le fait de la municipalité actuelle, comment est-ce que en étant à droite, une mairie de droite, de telles choses ont pu être faites, alors qu'on prend le cas d'Angers, où effectivement, mairie à droite, jamais seulement l'idée n'a effleuré d'autres municipalités. Qu'est-ce qui a fait que le terreau spécifique bordelais a pu permettre la mise en place de cet ensemble-là et de cette coordination ?
Alors, le travail revient beaucoup à je dirais, aux administrateurs ou aux associations, la société civile. C'est les organisations LGBTQI+, qui ont fait un très, très grand travail de longue haleine pendant de longues années pour plaider sur ces questions-là, pour trouver des solutions, essayer de travailler, essayer de rassembler toutes les parties prenantes pour essayer de travailler dans un but commun. Je dois avouer que quand même, le plus grand... l'ouverture de la mairie a été rendue possible par une personne qui à l'époque travaillait dans l'administration du temps de Juppé, qui s'appelait Marie Cretou, qui était l'élu qui travaillait sur les questions de lutte contre les discriminations. Et cette personne a permis d'ouvrir un dialogue directement avec la mairie, essayer de travailler avec la mairie, a permis de créer des études, de considérer les études qui avaient été faites, de travailler avec les universités pour faire de la recherche, pour appuyer les actions. Et bien sûr, je dois dire que les organisations LGBTQI+ de Bordeaux s'étaient vraiment, vraiment impliquées, étaient très engagées à ouvrir ce dialogue. C'était pas facile, mais depuis que la commission existe, ce dialogue existe là. Et la chance qu'on a eue, c'est que quand l'administration a changé, déjà comme il y a déjà un process, l'ouverture est encore plus large et la communication est bien plus ouverte et j'espère que l'on continuera à développer beaucoup plus d'engagement de la part des institutions, du moins dans la ville de Bordeaux.
Et ce qui veut dire, c'est que quelles que soient les couleurs politiques, la preuve en est, ça tient beaucoup à la qualité humaine et personnelle de certains élus.
Effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que quelle que soit l'administration, la question des luttes contre les discriminations est quand même une question qui n'est pas partisane, c'est une question en fait de droit humain. Et l'ancienne administration avait été d'accord, elle était pour l'égalité, pour l'égalité des droits. Et donc, en partant de ce principe, le dialogue était possible et c'était possible de réaliser ce travail. Après, je ne dis pas que c'était facile, mais ça a été rendu possible. Moi, je suis arrivée à l'administration un petit peu plus tard. Ce que je peux dire, c'est que nous organisons un grand projet d'archives qui pourra mettre en avant tous ces travaux qui avaient été faits par la société civile LGBTQI de Bordeaux. Et peut-être que Stéphane, je pourrais vous la partager.
Ah oui, avec plaisir.
Quand ce sera prêt pour oui. Pour partager ces histoires-là, mais vraiment c'est de reconnaître que les militants de la société civile se sont battus pendant une décennie à peu près pour avoir ce type de service et ce type de dialogue qui existe avec les institutions. Donc il faut reconnaître le travail de nos anciens.
Exactement. Et la transmission et surtout les archives, c'est un point vraiment.
Absolument.
vraiment central de nos associations, parce que parfois nous avons le nez dans le guidon et on ne pense pas à laisser trace de ça, non pas pour la gloriole, mais pour l'image d'une part de ce qui a été fait, la réalité, et puis laisser des traces pour dire, bah voyez, c'est possible quoi. Il suffit de se redresser sur sa chaise, de vouloir quelque Merci. Chose, on se remonte les manches et puis on y arrive au fur et à mesure, mais le chemin est souvent semé d'embûches, c'est une évidence. Dans l'activité du gyrophare, le fait qu'Elucide existe et qu'il y ait toute la possibilité que tu nous as décrite, est-ce que vous avez constaté plus ou moins de cas d'agression, d'injures, de violences intrafamiliale? Est-ce que les violences dans les couples LGBT, vous les avez constatées, puisque la fédération LGBTI+, a lancé une campagne pour les violences dans les couples de femmes, de même sexe, donc il y en a une autre pour les couples d'hommes. Est-ce que vous avez constaté, vous, les effets de toutes ces violences potentielles?
Oui, bien sûr. Après, bon, ben, si vous regardez un petit peu les deux dernières années, les agressions contre les personnes LGBTQI, les trois dernières années d'ailleurs, les agressions contre les personnes LGBTQI étaient un petit peu en hausse. Et puis ça s'est exacerbé, bien sûr, un peu comme partout ailleurs en France, je pense, avec la crise sanitaire, et notamment les mesures de confinement qui ont été... qui ont aggravé les violences en général, surtout au sein des familles. Et donc, oui, on le constate. D'ailleurs, la fédération siège à notre commission LGBTI de Bordeaux avec la mairie. Donc, on reçoit les données nationales, on reçoit les données, on a SOS homophobie aussi, mais on a aussi les données locales. Et je dois dire que le fait d'avoir ce dispositif-là, ça permet aussi de répondre à ce type d'agression de manière efficace, de constater leur évolution, de constater l'efficacité de ce dispositif. Donc oui, voilà. Bon, c'est dommage de devoir avoir des cas pour pouvoir constater l'efficacité, mais cela dit, on espère que l'évolution de la crise sanitaire ira vers une plus grande liberté de mouvance pour les personnes, parce que les restrictions sanitaires ont exacerbé pas mal de ces discriminations-là. Et bien sûr, sans compter les discriminations croisées, bien sûr.
Mais tout à fait. Est-ce que vous avez beaucoup de saisines, de demandes de la part des personnes transgenres, à genre, non-binaires, pour leur parcours, la prise en charge de leur santé, les familles qui sonnent comme chez nous à votre porte?
Oui, nous avons, c'est pas uniquement les personnes issues de la diversité du genre, mais en fait, en général, nous avions remarqué en 2020 une augmentation de 30% des signalements de cas soit de violence ou même des cas de précarité extrême. Donc oui, les demandes ont augmenté. Mais ça, c'était plus parce que les mesures de confinement étaient très renforcées cette année-là. Après, comme je vous l'ai dit, c'est plus le directeur général qui pourrait répondre à ces questions-là, parce que je ne suis pas dans les opérations journalières. Mais je dois dire que la crise sanitaire, elle n'arrange pas les choses du point de vue des discriminations, des violences.
Et alors la dernière question, parce que là c'est important, nous arrivons en fin d'année, quels seraient tes vœux pour 2022, quelles priorités mettre à la une des actions que tu verrais, toi?
Moi mon vœu serait que toutes les personnes identifiées LGBTQI+, puissent jouir de ses droits, tout simplement. Je sais que c'est un peu ambitieux, en un an ça se fera pas, mais j'aimerais bien que l'on puisse parler simplement de problèmes de société, d'évolution économique, voilà, etc., mais que l'on ne parle plus de discrimination, c'est mon rêve, et si c'est pas réalisé en 2022, ce sera en 2025, en 2030, en 2050, et mon rêve ultime, c'est la libération totale des personnes LGBTQI+, de vivre dans leur joie et de jouir de leurs droits.
Ben, je trouve que c'est un joli programme, on va se dire ça. Et on va tous...
Oui, voilà, le travail n'arrête jamais.
Voilà, c'est ça. Et on va tous essayer de tendre à cette réalité, mais il y a encore beaucoup de boulot. Merci beaucoup, Erika Werner, secrétaire de l'association Le Gyrophare. Le centre LGBTQI+, de Bordeaux, et puis la bise aux Bordelais, hein, parce que
merci,
c'est important.
Merci à Casa.
Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée.
Vous voyez comme quoi, finalement, on voyage beaucoup dans Quasar on the Air. On passe d'une ville à l'autre depuis la rentrée. Nous sommes passés par Nancy, Rennes, Nantes. Nous avons été à Saintes, même Bayonne-Biarritz avec les Bascos. Comme quoi, finalement, ça fait du bien de prendre l'air. Et là, maintenant, en Aquitaine avec Bordeaux. Avant de refermer définitivement, pour ce soir du moins, ce Quasar on the Air, je vous rappelle l'agenda. Il est important. Après-demain, samedi, je vous dis bien, après-demain, samedi 18 décembre, à 17h, c'est la permanence de Quasar jusqu'à 19h. Attention, il n'y en aura pas les 25 décembre et 1er janvier 2022. On est en repos. En revanche, ça reprend le samedi 8 janvier, 17h, comme pour le 15 et le 22 janvier. Après-demain, toujours samedi 18 à 15h, cette fois-ci, c'est le Transat, comme Charlie vous en a parlé tout à l'heure. Il est membre de la Team Trans qui organise le Transat, un groupe de parole pour et avec les personnes transgenres, agenres et non-binaires, et uniquement pour eux et pour elles ou pour yel, si vous préférez. Le vendredi 21 janvier, eh bien noté 2022, hein, c'est clair, on va changer d'année, hein. Il va falloir s'y habituer. Le vendredi 21 janvier, eh bien nous changeons d'organisation. Adieu les conviviales compliquées avec le Covid. Cette fois-ci, rendez-vous à 19h30 avec le Quasar Papote, un thème, des échanges, et on passe un bon moment entre nous. Et puis, enfin, samedi 29 janvier 2022, à partir de 14h30, ce sera l'Assemblée Générale Annuelle de Quasar. Une heure, comme ça passe vite sur Radio G Quasar on the Air 101.5. On vous souhaite une très 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 belle soirée. Passez d'agréables moments. Je ne vous dis pas passez de bonnes fêtes parce que nous nous retrouvons avant justement le réveillon de Noël. Notre prochain rendez-vous, ce sera jeudi 30 décembre à 20h avec, je l'espère, plein de surprises et nous aurons beaucoup plus de musique. Donc on va en profiter et essayer d'être tous ensemble et tous joyeux. Et puis s'il vous arrive quoi que ce soit, vous le savez, il y a Quasar. Quasar qui vous attend 15 rue de Jérusalem à Angers. Très belle soirée, c'est la suite des programmes sur Radio G.
Radio G 101.5 FM.